Ma préférence, Jacques Lavergne.
Chloé Morin-Ridé.
Bonsoir.
Bonjour.
Ma préférence, le magazine culturel d'Esprit Occitanie. Voilà, bienvenue à tous. Je vous l'ai dit, je vous le répète, on est heureux d'être avec vous pour parler de théâtre, de livres, d'expositions, de cinéma, gastronomie aussi, avec Chloé Morin-Bardet, ma camarade de radio, avec qui nous co-animerons cette émission. Eh bien, vous connaissez le menu, c'est ma préférence, c'est parti. Et nous allons commencer par le théâtre avec Chloé Cardino, notre actrice... Bonsoir Chloé.
Bonjour tout le monde, bonsoir.
Voilà, qui nous va nous faire sa rubrique théâtre. Alors, qu'est-ce qui se passe au théâtre à Toulouse, Chloé?
Alors, encore plein de choses. Bon, je vous la fais par téléphone ce soir justement parce que moi, je me rends au fil à plomb après pour notre semaine au fil à plomb avec le grand I comme d'habitude.
Et donc, vous jouez ce soir, Chloé?
Hein?
Vous jouez ce soir?
Oui, ce soir et toute la semaine dans un concept qui s'appelle Road Trip. C'est un road trip improvisé. Et on a un comédien de Paris qui vient nous rejoindre à partir de demain, qui s'appelle Timothée Anzieux, qui fait partie d'une troupe d'impro parisienne très connue qui s'appelle les E, E-U-X, et il est assez impressionnant, donc on est ravis de l'accueillir avec nous.
Oui, là, ben c'est, voilà. Ça, vous m'avez toujours impressionné quand je viens vous voir sur l'impro, ça c'est vraiment quelque chose de... très particulier, il faut être un excellent comédien et surtout avoir un cerveau qui fonctionne bien et beaucoup d'agilité.
Ah, c'est du sport, il faut travailler, répéter, malgré que ce soit de l'impro, on répète pas mal quand même, ouais. Mais ce comédien est excellent, oui. Alors du coup, pour pas parler d'impro, justement, j'ai des compagnons, certains qui font de l'impro avec moi, mais une autre qui n'en fait pas, qui s'appelle Julie Safon. Je ne sais pas si vous connaissez cette comédienne de Toulouse.
Non.
Eh ben, c'est l'occasion de la rencontrer. En plus, c'est une comédie mythologique qu'elle a créée avec son compagnon Laurent Berthier, qui est dans ma compagnie d'impro également. Et ils ont adapté l'Odyssée d'Homère, pas Simpson l'autre, c'est leur blague à eux, hein,
Oui.
Et ça s'appelle Ulysse le retour. Et donc c'est une parodie à trois personnes, enfin trois comédiens.
Il y a de quoi faire, hein.
Oui, et alors ils disent qu'ils font 30 personnages, 2 chèvres et 1 porcelet. Et j'en avais parlé avant le Covid parce qu'ils avaient joué à la création, je crois qu'ils avaient joué au Grenier Théâtre également. Et là, donc ils reviennent au Grenier Théâtre parce que ça a beaucoup plu. Et puis, entre-temps, on a eu le Covid, donc on n'a pas pu les voir avant. Et les revoilà, donc c'est vraiment... Et puis, il y a eu un bébé entre-temps, d'ailleurs, dans la compagnie. Donc, elle revient là. Ça va être son premier spectacle au sortir de son congé maternité. Et c'est du 18 mai, du mercredi 18 mai au samedi 21 mai. Donc, c'est la semaine prochaine, si je ne m'abuse, à 20h30 au Grenier Théâtre. Donc, c'est l'adaptation d'Ulysse, hein, comme vous connaissez certainement.
Un peu, mais là, ça doit être revu et revisité.
Exactement, c'est très drôle. Alors moi, du coup, je l'avais vu à l'époque, j'ai beaucoup ri. De toute façon, j'aime le jeu de ces trois comédiens. Ils sont complètement barjots. Et ils ont fait des tuniques grecques. Elle, Julie, elle a une voix impressionnante, une voix grave, très posée, une diction impeccable. Et j'adore sa voix. Suave, tout ça. Laurent, il est excellent. Et puis, leur compère qui joue avec eux, c'est Sylvain Borins, qui est un comédien de ma compagnie aussi, qui est très, très drôle. Donc, et il fait à un moment donné, il fait toute une foule et il joue tous les personnages de la foule. Et je me rappelle avoir beaucoup ri à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier spectacle. Vous m'entendez toujours?
Oh, très bien. Nous buvons vos paroles, Chloé.
Alors ensuite, j'ai découvert qu'il y a un nouveau café-théâtre qui vient d'ouvrir ses portes. Je vais aller découvrir ce café-théâtre parce que j'ai pas encore mis les pieds là-bas. Ça s'appelle la Comédie de la Roseraie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce lieu.
Non, la Roseraie, je connais bien pour y avoir même été à l'école à l'époque, rue Louis Plana, mais ça remonte un peu loin.
Ben, ça va vous parler. Alors, du coup, c'est dans, vraiment dans le quartier, à deux pas du métro. Mmh. Et c'est un jeune homme de 32 ans à peu près. J'ai vu un article qui s'appelle Mehdi Sersoub, qui a ouvert ce lieu. Donc, il a fait des gros travaux. Il a tout aménagé aux normes. Et c'est un café-théâtre donc bien qui a ouvert depuis le 25 mars. Mais j'ai pas encore eu le temps d'y faire un tour. Et là, je vais y aller parce qu'il y a une comédienne que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire, qui s'appelle Indira Lacour. Je ne sais pas si vous l'avez déjà croisée non plus.
Je ne sais pas si je ne l'ai pas vue, oui, une fois sur scène.
Peut-être. Hein. Son papa faisait de la radio à La Réunion. Et donc elle est vraiment, vraiment drôle. Elle, vous l'avez peut-être vue dans le clip qu'on avait fait, Les Nonnes Essentielles.
Exactement.
Pendant le confinement.
Exactement.
Voilà, donc elle avait fait ce clip avec moi, c'est une amie. Et elle a écrit son... Moi, je l'ai rencontrée dans son premier seul en scène qu'elle avait fait. Ça s'appelait Trentenaire à Vif, il y a à peu près 10 ans. Et je l'avais rencontrée à Paris. Elle jouait dans des petites salles à Paris. Et là, elle nous propose son nouveau spectacle. Elle n'en a pas écrit depuis 10 ans. Et ça s'appelle du coup Quarantenaire et tout est à refaire. Et Indira Lacour, donc c'est à la Comédie de la Roseraie. Il y a une date unique pour l'instant. Donc il ne faut pas la louper. C'est le mercredi 25 mai. À 20h, la Comédie de la Roseraie. Du coup, je peux vous dire l'adresse parce que je l'ai noté, c'est le 156 bis avenue de Lavore, donc vraiment à côté du métro Roseraie. On peut s'y rendre en métro quand on n'a pas la voiture, et je pense que pour se garer c'est pas trop compliqué non plus si on y va en voiture. La réservation se fait par téléphone ou par le site. Sur le site, on peut voir toutes les affiches. C'est vraiment bien fait. J'ai regardé un petit peu tout ce qui s'y fait. Mais Quarantenaire et tout est à refaire, c'est vraiment... Donc du coup, son résumé, je peux vous le lire quand même. C'est... Alors, sa mère lui disait, tu vas avoir 40 ans. Tu vas avoir 40 ans, c'est le plus bel âge. C'est le moment où la femme est la plus épanouie dans sa vie. Et Indira a-t-elle écouté sa mère? A-t-elle réussi la quarantaine à trouver un boulot en or, à faire des gosses adorables et garder son mari, à acheter la villa, profiter d'un abonnement illimité à Netflix, avoir enfin la fibre? Vous le saurez en venant assister à ce One Woman Show de et par Indira, parce que c'est elle qui écrit ses textes.
Bien.
Donc voilà. Et puis j'avais une dernière chose. Il y a pas mal de choses qui se font au Théâtre du Pavé, dont je parle souvent aussi, que Tiffaine connaît bien d'ailleurs. Et là, il y a un spectacle avec Francis Azéma qui s'appelle Le Voyage de Jaurès en Amérique latine, d'après les discours et lettres de Jean Jaurès. Ça a l'air super, c'est du 24 mai au 28 mai.
Alors super, ça doit l'être, parce que vous savez qu'il y a eu un film qui a été tourné par Francis Fourcoux, puisque c'est la déclinaison du film, et j'avais reçu ici et Francis Fourcoux et M. Azéma pour venir nous parler du tournage du film et du contenu. Donc là, maintenant, on va rééditer au théâtre.
Ah ben,
ça
super.
Va être certainement un excellent moment, parce que Francis Azéma est un Jaurès extrêmement crédible, un peu l'accent en moins, parce que, paraît-il, Jaurès, que je n'ai pas connu, je rassure tout le monde, Jaurès roulait les R, mais Francis, non, mais il a une présence pour incarner ce grand homme qui est assez fabuleuse.
Ah oui, c'est un comédien qui est vraiment excellent, hein, on le sait, il est professeur au conservatoire de Toulouse, et donc vraiment, vous pouvez aller découvrir le résumé sur le Théâtre du Pavé, parce que ça a l'air super. Et juste, et donc ça c'est juste avant, du 24 mai au 28 mai, et juste après, du 2 juin au 4 juin, il y a le seul en scène de Muriel Darras qui revient, qui s'appelle Même pas mal. Muriel Darras, c'est une comédienne qui joue cette semaine encore, mais je ne sais pas si vous aurez le temps d'aller le voir, qui joue Misery au Grenier de Toulouse, que j'ai vu il y a quelques jours, et c'était impressionnant. C'est l'adaptation de Stephen King, j'en avais parlé la semaine d'avant, enfin la dernière fois que j'ai fait ma rubrique, et c'est un spectacle, vraiment un thriller, quoi, un spectacle. Et là, elle a écrit aussi de son côté un seul en scène qui s'appelle Même pas mal. Enfin, c'est pas elle qui l'a écrit, c'est Dolores Gracia, mais c'est très adapté à elle, elle est hyper touchante. Celui-là, je l'avais vu il y a quelques années, et elle le rejoue, c'est vraiment l'occasion d'aller le voir. Parce que le résumé de Même pas mal, c'est sonnerie criarde, chacun retourne dans le rang. La cour du collège est la plus grande piste de cirque remplie d'animaux non domestiqués. Pionne dans un bahut, Dolores est le capitaine du grand navire qui flotte comme il peut sur les vagues de l'adolescence. Et donc ça raconte un peu son parcours de pionne. C'est donc Dolores Gracia qui a écrit ça, et c'est sur son parcours. Hein. C'est assez autobiographique, me semblait-il, puisqu'on en avait parlé à l'époque avec Muriel. Et Muriel l'incarne seule sur scène avec brio. Enfin, elle est c'est une comédienne très touchante, et ça c'est à 20h30 au Pavé. Donc vous pouvez vraiment aller sur le site du Pavé et enchaîner les deux spectacles, là, le voyage de Jaurès en Amérique latine, suivi de même pas mal la semaine d'après, vraiment n'hésitez pas.
Eh bien on va pas se retenir, on va pas bouder notre plaisir, Chloé. Merci, merci, bonne,
avec plaisir.
Bon spectacle ce soir et bon spectacle les jours prochains. On sait que c'est quand même quelque chose qui est très exigeant physiquement. Alors très bon courage Chloé, merci pour cette belle rubrique. Bonne soirée,
au revoir.
Au revoir. Voilà, et bien, sans transition, comme l'on dit à la radio, nous allons passer à notre rubrique suivante, et ça, c'est la rubrique de Chloé, qui est allée faire, Chloé Morand, ma complice ce soir, qui est allée faire du son au festival concours de cours, alors cours c'est O-U-R-T-S, à la Cinémathèque. Alors, qu'est-ce que c'était le principe, Chloé ?
Alors là, en l'occurrence, c'était la cérémonie de clôture du festival. Donc, le principe, c'est un festival consacré au court-métrage, qui est un format dans le cinéma un peu négligé aujourd'hui. Et donc, le but, c'est des candidats qui proposent leur propre court-métrage et qui gravissent les étapes de ce festival. Voilà.
Et donc là, vous avez interviewé
Le gagnant du concours, sans le savoir, juste avant la diffusion.
Ça, c'est du métier. Ça, c'est du métier.
L'anticipation, voilà.
Eh bien, nous l'écoutons. Comment il s'appelle ?
Alors, il va se présenter. Je n'ai pas retenu son nom, mais il va se présenter.
Voilà, on va l'écouter.
Alors, je suis Camille Pellapra et je fais partie de l'équipe de concours de cours.
D'accord. Alors, pourquoi avoir voulu organiser ou aider à organiser ce festival ?
Alors, en fait, c'est dans le cadre d'un projet académique du Master 2 AGCOM, Administration et Gestion de la Communication. Et donc, je suis dans ce Master 2 et donc, on devait choisir un projet tutoré. On a choisi le festival concours de cours.
En quoi ce format du court-métrage est peu représenté ? Parce que c'est un peu là-dessus que vous communiquez quand même.
Eh bien, avant, quand on allait au cinéma, on pouvait voir des courts-métrages en première partie. Puis maintenant, c'est plus le cas. Donc, la diffusion du court-métrage a aidé beaucoup moins large, c'est souvent à travers les festivals que les courts-métrages peuvent être vus, diffusés et au grand public.
D'accord, donc c'est votre objectif de propager ce format.
C'est ça, et de le démocratiser. Oui.
Je m'appelle Pierre-Étienne Davy et j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle L'Abord.
Et alors pourquoi avoir participé à ce festival ?
On est passé par un organisme qui en envoie plein et il se trouve qu'il en a envoyé un ici pour concours de cours. Et que on a été reçu pour la sélection finale, donc voilà.
Donc vous avez un peu gravi des échelons, ça
Non, c'est plutôt le début.
Comment vous avez fait pour arriver à la finale de ce festival déjà ?
Ça, c'est des décisions en interne parce que nous, on a juste envoyé le festival, au festival. Donc à ce moment-là, c'est eux qui ont fait leur sélection et ils nous ont envoyé un mail pour nous dire qu'on était pris en sélection finale.
C'est votre première édition du coup que vous faites ?
Deuxième.
Ah, deuxième ?
Ouais.
D'accord.
De concours de cours, c'est la première. Ouais.
Ah, d'accord. Vous avez déjà participé à d'autres concours ?
Ouais, on a été pris dans un autre festival au Havre. Donc c'était il y a festival. Un mois. Ouais, c'est ça. Petit festival étudiant. Voilà.
D'accord. Et c'est votre métier ? Faites ça dans la vie ? Vous êtes réalisateur de...
Moi, je suis plutôt de formation montage et VFX.
D'accord.
Donc, mais oui, là, avec Jordan, on a réalisé un court-métrage. On l'a réalisé il y a 2 ans à peu près. Mmh. Et avec le Covid...
Vous êtes le co-réalisateur, du coup.
C'est ça. On est deux sur le sujet.
Si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. Je vous passe le micro.
Il est timide.
Et de quoi ça parle, donc, ce court-métrage L'Abord ?
C'est un film d'anticipation dans lequel on suit une jeune fille qui est au lycée et qui doit se battre un peu pour obtenir une bourse parce que l'enseignement supérieur a été privatisé. Et elle reçoit des messages de mort 20 minutes avant son examen final. Et elle est persuadée que c'est son concurrent direct au classement qui lui envoie ça. Donc c'est un gros thème sur la compétitivité à l'école, au lycée. Et on traite un peu de ça de manière... anticipé, genre un peu science-fiction.
Donc voilà. Il sera diffusé ce soir,
c'est
je
ça.
Suppose.
Okay. Oui.
Et alors, est-ce que vous êtes satisfait en général de cette édition ?
Pour le moment, oui. Pas grand-chose à redire. Très peu de relations, mais bon, ça a l'air très...
L'ambiance générale était bonne ?
Ouais, bon, ça va, ouais. Là, moi, je viens d'arriver parce que je suis rennais, donc ouais. Je débarque juste pour la soirée. Mais en tout cas, l'organisation est chouette.
Je suppose que vous êtes content d'être là, du coup ?
Oui, très.
D'accord, super. Du coup, c'est votre première édition, c'est ça ?
Ouais, absolument.
Et vous êtes, vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle So, je suis étudiante en droit.
Okay.
Et je viens parce que je connais quelqu'un
qui travaille ici, enfin qui organise.
D'accord.
Et du coup, ça m'intéresse. Je découvre un petit peu le cinéma, c'est sympa.
Ok, super. Donc c'est ta connaissance qui t'a amené à ce festival. Tu serais pas venue
Absolument pas. D'accord. Ça a rien à voir avec le droit, vraiment. C'est juste, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Et du coup, je suis venue, quoi.
Ok, super. Tu veux dire quelque chose?
C'est grâce à moi qu'elle est là. Non. Mais en fait, c'est une amie qu'on a en commun qui a participé à l'organisation.
D'accord.
Et elle nous a proposé si on voulait venir pour la clôture. Donc, du coup, nous, on a dit bah oui, pourquoi pas. On est intéressés, donc c'est pour ça qu'on est là ce soir.
Voilà, c'était le festival Concours de cours à la Cinémathèque, le reportage de Chloé Morand-Bridé. Ça avait l'air bon enfant, Chloé.
Oui, vraiment. Ouais.
C'est un bel endroit, la Cinémathèque, oui. Et beaucoup de films. Je crois qu'on oublie un peu trop qu'elle existe à Toulouse. On va dans des salles aseptisées pour voir des films qui ne méritent pas toujours le déplacement. Alors qu'à la Cinémathèque, il y a de véritables petits bijoux.
Oui.
On fait une première pause musicale, c'est la vôtre, Chloé.
Oui, c'est Feeling Good de Muse.
Feeling Good de Muse, et qui est Muse?
Alors, c'est un groupe anglo-saxon assez connu, je pense, que nos auditeurs connaissent. En l'occurrence, là, c'est une reprise d'une originale de Nina Simone.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea.
Dans ses œuvres. Alors maintenant, on va parler exposition, puisque Chloé a beaucoup voyagé cette semaine, elle est beaucoup sortie. Vous nous amenez où, Chloé?
Eh bien là, on part direction l'accueil du Capitole, donc la mairie de Toulouse, connue de tous, à la découverte de l'exposition de Hugues Renk, un artiste d'art plastique, comme il aime se décrire.
Ah ben quoi, voyons l'art plastique.
Oui, donc je suis Hugues Renk, je suis artiste peintre depuis, on va dire, à peu près 25 ans que je pratique cette activité. J'ai fait des études aux Beaux-Arts à Versailles, une école également de graphisme à Strasbourg. Et depuis que je suis installé à Toulouse, j'ai décidé en fait de faire que de la peinture. Enfin, également, j'ai également une activité de peintre, on va dire, muraliste, c'est-à-dire une activité de peintre en fresque, vous voyez, de décoration, etc. Voilà.
D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez présenter donc votre exposition de la période?
Oui. Alors là, ce qu'on montre, c'est essentiellement des tableaux, des paysages urbains, c'est-à-dire donc des vues de ville. Il y a deux types de travail, un sur la ville de Toulouse, donc Toulouse c'est ma ville, on va dire, d'adoption, je ne suis pas toulousain d'origine, mais depuis que j'y suis installé, j'ai on va dire, eu un coup de cœur pour cette ville, que je ne connaissais pas du tout avant de m'y installer d'ailleurs, très peu. Et donc je trouve que c'est une ville qui a beaucoup de caractère sur le plan architectural notamment. Et j'aime bien également tout ce qui est univers de toit, tout ce qui se passe au-dessus en fait.
D'accord.
J'appelle ça un peu la canopée des villes. Donc il y a plein de choses qui surgissent comme des antennes, des cheminées, voilà, tous ces éléments qui surgissent et qui sont directement en contact avec le ciel par exemple.
C'est ce qu'on voit beaucoup sur vos tableaux.
Voilà, exactement, ouais. Donc il y a aussi justement le ciel est assez présent sur les tableaux la plupart du temps. Ils sont soit en contre-plongée, soit en plongée. Et les vues, c'est des cadrages assez particuliers. Et avec donc une présence du ciel assez importante.
Parce que comme ils ne sont pas très hauts non plus, ça aide peut-être.
Voilà, ouais. Alors ça c'est pour Toulouse, effectivement, vous dites que les immeubles ne sont pas très hauts. À Paris, c'est l'autre ville que j'aime, enfin ici en tout cas, que j'ai présentée. Donc c'est la ville où j'ai fait mes études d'art, et c'est également une ville que j'estime beaucoup par sa richesse architecturale, et également par la structure de ses toits. Il y a des caractéristiques particulières à Paris, donc ces fameux... Oui, et puis les toits, c'est souvent des toits en zinc avec des petites cheminées en terre cuite. Oui. Ça crée un contraste assez intéressant, je trouve, au niveau des couleurs et au niveau des textures et des rythmes également. C'est ce qui m'inspire, c'est ce qui me plaît dans ces deux villes-là. Il y en a une autre, c'est Strasbourg, qui est ma ville, on va dire, d'origine, et qui est aussi une ville à forte personnalité. Pour moi, en fait, c'est un peu comme si je faisais des portraits de villes. Donc il n'y a pas beaucoup de personnages dans mes tableaux. Il y a souvent, par
des
contre, voilà, il y a des chats, il y a des oiseaux, il y a des fois des éléments qui viennent sur les murs. Ça, c'est un petit clin d'œil à mon activité de peintre en fresque. Généralement, elles n'existent pas vraiment dans la réalité. J'y rajoute sur le tableau en fonction de ma fantaisie. Voilà.
Et alors, je ne sais pas s'il y en a un, mais quel est le tableau dont vous êtes le plus fier, qui vous a
le plus fier,
le plus de temps?
Le plus fier, je ne sais pas, mais il y en a que pour lesquels j'ai
une
émotion particulière. Oui. Peut-être celui qui est au fond là-bas, enfin, on ne le voit pas puisque c'est la radio. Mais... Donc, c'est une vue de Paris. Alors, il faut juste préciser aussi que certains de mes tableaux des vues de Paris sont inspirés par des daguerréotypes, donc c'est ces photos très anciennes du 19e siècle, où justement la particularité qu'ont ces photographies, c'est qu'il y avait un temps de pose assez important et elles ne fixaient pas le mouvement. Ce qui fait que dans ces vieilles photos, on a juste la ville, on n'a pas les éléments mouvants, c'est-à-dire les gens, les voitures, enfin tout ce qui pouvait être en mouvement. Et ça donne une espèce de côté un peu presque fantomatique des villes. Mmh. Et donc, cette ville-là, ce tableau-là, je l'aime bien, parce que j'ai traité avec en même temps de la naïveté. Il est très mouvant, il a une espèce de curiosité, on ne sait pas trop où on se trouve exactement. On est à la fois à Paris et en même temps dans un univers un peu fantasmé et imaginaire. Quoi.
Voilà. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver donc?
Sur Toulouse, principalement de manière récurrente pour les petits formats, je fais tous les ans les 111 des arts. Donc c'est une exposition qui a lieu généralement au mois de novembre à l'Hôtel Dieu, qui est à but caritatif pour recueillir des fonds pour les maladies graves de l'enfant. Donc ça, c'est des petits formats. Sinon, également, je fais assez souvent les arts en balade. C'est donc les visites des ateliers d'artistes surtout Toulouse, quoi. Après, sinon, je circule pas mal un peu dans toute la France.
Et puis ici, dans l'accueil du Capitole, quand même, pour
pour cette exposition-là. Bah oui, il faut préciser, si les gens ne le savent pas, que nous sommes à l'accueil du Capitole de Toulouse, donc à la mairie.
Je m'appelle Patrick Coudin.
Oui.
et je suis originaire de la Loire-Vallée, de Tours, mais j'ai fait une partie de ma vie, j'ai vécu à Toulouse, puisque j'étais militaire. Alors, je suis l'organisateur de l'exposition, simplement parce que M. Moudin et M. Espigas m'ont demandé si je pouvais leur mettre 6 expositions cette année. Donc, je choisis des artistes atypiques, des artistes avec lesquels j'ai travaillé, de façon à, comment ça s'appelle, à bien représenter Toulouse sous toutes ses formes. Hugues a été choisi simplement parce que il était artiste dans ma galerie que j'avais à l'époque. Alors moi, ce que j'aime, c'est le travail que Hugues a fait sur la ville, les toits, avec les grues. Simplement parce qu'à l'heure actuelle, Toulouse est en train de se métamorphoser et les grues apparaissent. Et ça permet d'avoir une autre vision de la peinture toulousaine.
D'accord. Est-ce que ce genre d'exposition, c'est une manière de faire perdurer la culture à Toulouse?
Ah, mais bien sûr, en long, en large et en travers.
D'accord. Et vous faites souvent venir des expos dans des lieux aussi emblématiques que celui-ci, donc on est à l'accueil du
Alors, ça peut être donc ici au Capitole, ça peut être à la chapelle des Carmélites, ouais. Ça peut être au presbytère à Marthe-Lausanne, comme à Montpellier ou à Béziers, voilà, c'est un endroit voilà, atypique. Moi, elle me touche principalement parce que je suis Toulousain de cœur, donc obligatoirement, j'invite tous les voyageurs, quand ils viennent à Toulouse, d'aller à la rencontre des artistes.
Voilà, c'était Hugues Rinck au Capitole en reportage de Chloé Morand. Bridé, voilà. J'ai toujours un peu de mal à... Hein, mais ça y est, je crois que c'est bien rentré dans ma tête. On fait une petite pause musicale. Alors ça, c'est la pause de Tiffaine qui va nous expliquer ce qu'elle a choisi.
Alors moi, j'ai choisi un morceau de nos rappeurs à la chocolatine, autrement dit Big Flo et Oli. C'est un morceau qui s'appelle Toulouse, qui est sorti dans une édition limitée du deuxième album La Vraie Vie, qui n'est sorti qu'à Toulouse. Donc c'est vraiment un morceau pour les Toulousains. Et je l'ai choisi parce que c'est une jolie déclaration d'amour à Toulouse, donc... Voilà, j'avais envie de le partager sur cette radio.
Eh bien, on aime tous Toulouse, on est là pour ça. Allez, on les écoute.
Ma ville, elle est rose. Mais ça tu le sais déjà, je vais pas te dire toutes ces choses qu'on t'a dit tant de fois, je vais pas te parler des musées, la musique de son art, mais du type qui vend du shit, Arnaud Bernard. Y'a le ballon au Valouron, les drapeaux sur les volets, donc y'a du rose, du rouge et noir, et du violet. Je vais pas te parler de cassoulet, car c'est rare qu'on en mange. Quand j'y suis, je me plains, quand je pars, elle me manque.
Faut pas croire qu'on fait tous la fête, pas toujours bienveillant. Souvent j'ai pris des cartons rouges, exclus de vos troisième mi-temps. Je te parle du reflet du canal, dans le regard de ma daronne. Des larmes du mélancolique qui ont monté le niveau de la Garonne. Y'a les guerriers du stade toulousain qui transpirent. Y'a le fou de la place Wilson qui m'a vu grandir. C'est nique ta mère sur un mur, ses voitures rayées. Y'a les vitrines d'Alsace-Lorraine qu'on pourra pas se payer.
Y'a des types qui vivent ici depuis moins longtemps que mon père et qui le traitent d'étranger. Y'a ces familles de Bagatelle ou du Mirail qui galèrent et dont Nougaro a oublié de parler. Pas de parler du Capitole,
imposant et si fier,
et de la brume de Jolimont
qui enveloppe le cimetière.
Y'a ces deux vieilles qui bavardent, y'a ces bars, ces bagarres. Et si tu cherches l'amour, mon pote, tu le trouveras pas rue Bayard.
Je vais pas décrire les odeurs du marché Saint-Aubin. Je te parle de la lumière, de la ligne A qui pique les yeux le matin. Même quand le soleil fait pas d'effort, ma ville est jamais grise. Mais s'il tape trop fort, ben vas-y, tombe la chemise. On crie notre accent, on aime se faire entendre. On rigole souvent des autres, mais quand on pleure ensemble. De notre ville, on est fiers, donc tant pis si t'aimes pas. C'est comme Marseille sans la mer, Bordeaux en plus sympa.
Dans l'oreille, écoute bien, dans nos têtes et dans nos corps, y'a le boom de AZF qui résonne encore. C'est vrai qu'elle est vulgaire, mais elle a la douceur d'une grand-mère. Au fait, on dit chocolatine, et au passage, on t'emmerde. Y'a pas la mer, pas la forêt, pas la campagne, mais la ville se ranime en nous quand on est trop loin. Elle a le pont neuf comme collier,
la grave comme boucle d'oreille, et des poussières de briques comme fond de teint.
Y'a nos tontons au PMU qui attendent même plus le tirage. Je trinque avec Brice Tâton à la buvette du virage. Et même quand on tourne la page, normal qu'on s'y attache. Y'a ceux qui s'imaginent la plage à la piscine Nakache. Ici on se sent bien, t'es pas le bienvenu si tu te plains. Que tu dis salam, salut, shalom. À la fin tu dis putain, on n'est pas de la même famille, mais tu peux m'appeler cousin. Le jour de mon heure de gloire,
rajoute un quart d'heure toulousain.
Voilà, c'était Big Foody, les régionaux de l'étape, le choix de Tiffaine qui est aux manettes ce soir avec Marcou. Et nous avons, si je ne me trompe pas, en ligne Pascal Sabatier.
Bonsoir Jacques, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Pascal, voilà, je suis également, et vous ne l'avez jamais rencontré, pas plus que les autres d'ailleurs, puisque vous êtes toujours très loin de nous, je suis avec Chloé Morin-Bardet qui réalise ce soir l'émission avec moi et les prochaines d'ailleurs aussi. Alors Pascal Sabatier...
Bonsoir Chloé donc.
Voilà. Bonsoir Pascal.
Qu'avez-vous lu Pascal?
Alors aujourd'hui je vais vous parler de deux thrillers que j'ai particulièrement aimés et qui surtout ont deux points communs. Le premier point commun c'est que le thriller est normalement pas le genre de prédilection de leurs auteurs qui font habituellement du polar un peu plus classique. Mais là je dois avouer que le changement de genre, si je puis dire, ils l'ont réussi. Et le second point commun, c'est que ces deux thrillers sont très cinématographiques et ça ne m'étonnerait pas que des adaptations soient possibles un de ces jours. Quoi. Donc le premier auteur, c'est Olivier Norek. C'est un auteur qui a le vent en poupe depuis quelques années, qui est un peu sur tous les fronts d'ailleurs, notamment les séries. Il est le scénariste de la série policière de Canal+, Engrenage. Je ne sais pas si vous la connaissez, une excellente série policière d'ailleurs.
On ne regarde pas Canal+, depuis qu'elle est aux mains d'un personnage parfaitement détestable.
Mais il y avait un grenage avant que ce détestable personnage. Bon, c'est un autre sujet. Donc, Olivier Norek a commencé sa carrière d'écrivain avec un enquêteur récurrent qu'il a abandonné au bout de 3 romans. Abandonné, croyait-on. Et à la fin de son roman Sur Tension... on se disait qu'on ne verrait plus le fameux Victor Coste. Ben, c'était faux, puisque le dit enquêteur donc, revient dans un nouvel opus qui est intitulé « Dans les brumes de Capellans ». C'est édité chez Michel Lafond. Donc, je vous raconte l'histoire, en gros. Le commandant Rousseau s'apprête à arrêter un monstre qui traque depuis 10 ans, depuis la première disparue, Anna, suivie de 9 autres, toutes des jeunes filles dont on n'a jamais retrouvé la trace. Après une enquête qui est devenue son obsession, Rousseau atteint enfin son but, mais hélas, dans la cave de cette maison, il ne trouve qu'un cadavre et la jeune Anna, qui a été épargnée, mais qui est séquestrée depuis 10 ans. Donc le monstre court toujours. La découverte d'Anna va rester secrète. Et si elle accepte de parler, ce qui permettrait d'arrêter ce fameux serial killer, elle pourra bénéficier de la protection des témoins. Et pour cela, on l'éloigne le plus possible en l'envoyant sur l'île de Saint-Pierre, de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc, où le commandant Victor Coste, donc, qui réapparaît, et qu'on a casé là depuis quelques années, depuis 6 ans, donc, est chargé de la faire parler. Y parviendra-t-il ? Et où cela le conduira-t-il? C'est ce que vous apprendrez en lisant le dernier et génialissime roman d'Olivier Norek. Alors moi, j'ai toujours aimé Olivier Norek, j'ai tout lu. Mais j'avoue qu'avec ce roman, il atteint des sommets, tant au niveau de l'histoire, de l'intrigue, des personnages. Le retour évidemment de Victor Coste, qu'on avait laissé à la fin de Surtension, est vraiment très agréable aussi, mais il y a une ambiance, qui est due sûrement au lieu géographique qu'il a choisi. Alors, je sais parce que je le suis un peu, je sais qu'il a passé pas mal de mois sur l'île de Saint-Pierre pour, je pense, s'imprégner de cette ambiance et vraiment cette ambiance crépusculaire sur cette île proche du cercle polaire. On la ressent vraiment et tout est d'une intensité extrême. Donc, et dans le final, qui est vraiment en plus à couper le souffle. Donc, je vous conseille vraiment le dernier Olivier Norek, Dans les brumes de Capellans, qui est sorti chez Michel Lafon il y a quelques semaines.
Nous le lirons.
Et le deuxième roman dont je voulais vous parler, donc, qui est aussi dans le style thriller, c'est le deuxième roman de Gilles Vincent qui sort chez Le Diable Vauvert.
Aux excellentes éditions du Diable Vauvert.
Voilà, après Les Poupées de Niger qui était sorti il y a 2-3 ans et qui s'intitule Usual Victims, donc un titre anglais.
Oui, vous le prononcez d'ailleurs fort bien, un accent remarquable.
Yes, Usual Victims. Donc, et on se dit d'emblée, mais pourquoi ce titre ? En débutant la lecture, on comprend très vite qu'un des enquêteurs, en l'occurrence un stagiaire assez perspicace qui a été diagnostiqué autiste Asperger, est fan absolu des thrillers américains au cinéma, dont il connaît des tirades entières par cœur et qu'il arrive à caser dans les conversations, après tout à chacun ses références. Puis, ensuite, le cadre se pose. Il s'agit là d'une série de suicides dans un gros entrepôt commercial type Amazon. Et très vite, des bizarreries vont apparaître. Alors, les sujets d'actualité, sociaux ou politiques, étant très chers à Gilles Vincent, on pense qu'on se dirige vers un polar social et engagé. Mais au fil du récit, on s'aperçoit qu'on s'est complètement trompé.
Ah, il y a quand même un peu l'aspect social hein, qui ressort sous sa plume.
Oui, mais moi, je ne l'ai pas vécu. Enfin, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti quand même. J'ai compris tout à coup le titre du roman. Parce que là, on se retrouve vraiment à un moment donné comme devant un thriller de cinéma. Hein. On se pose des questions là, on se dit waouh, mais non, c'est pas possible, c'est pas ça. Et on attend fébrilement la suite. Et puis, franchement, la référence cinématographique à Seven, au Silence des Agneaux ou évidemment à l'excellent Usual Suspect, elle nous revient très vite. Et franchement, c'est aussi bien que les meilleurs thrillers au cinéma. En plus, ça dure un peu plus longtemps, parce que quand même, on ne va pas le lire en 1h30. Et les frissons sont garantis. On va de surprise en surprise jusqu'à la fin, qui est vraiment un coup de génie. Et puis, on termine évidemment le roman en se disant « Mais bon sang, c'est bien sûr Usual Victime. » Voilà.
Et qu'il y aura vraisemblablement une suite. On peut l'imaginer.
Mes deux coups de cœur polar de ces jours-ci.
Bon, est-ce que vous connaissez, moi je vais vous parler d'un troisième livre, puisque hier, ici à la radio et à l'Hostal d'Occitanie, Pierre Larouille est venu signer son roman qui vient de sortir et qui s'intitule « Et un jour, il monta les marches jusqu'à demain aux éditions UPPR ». Alors Pierre Larouille, c'est un camarade de radio puisque nous faisons des émissions de commentaires politiques ensemble, ça va mieux, il fait partie de cette équipe depuis très longtemps, c'est un économiste, un politologue, un essayiste et là... Il nous a pas fait un livre savant, comme à son accoutumée. Il nous raconte une histoire de spin doctors, hein, vous savez ce que c'est. Si vous avez vu Bergen, tout le monde sait ce que c'est maintenant.
Le prononcez très bien aussi.
Oui, vous avez vu, je me suis beaucoup entraîné. Une équipe chargée de faire élire un prétendant à la présidence de la République. Alors, c'est un ancien président qui s'était pas représenté, mais qui est une bête politique, qui manque pas d'humour. Enfin, vous voyez à peu près qui ça peut être. Hein.
À peu près.
C'est assez transparent. Et là, on apprend que tous les coups sont permis entre les différentes écuries, entre guillemets, les écuries présidentielles. Et cette équipe, composée de 4 personnes, dont une psychologue, va se livrer à des analyses fines de notre société, alors que qui sont parfaitement éclairantes sur l'état et les tendances de celle-ci. C'est un livre, il y a plusieurs niveaux de lecture finalement, et ce sont des gens vraiment hyper compétents. Et donc la vision qu'ils nous livrent de la société parfaitement parfaitement intéressante. Alors il y a de l'action, il y a du suspense, donc de la réflexion. Un excellent cocktail que je vous recommande, Pierre Larouille, et un jour il monte les marches jusqu'à demain chez UPPR. Voilà, Pascal. Merci Pascal, on vous laisse
merci
dans votre
vous.
Belle bibliothèque. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir Pascal. Eh bien, de Pascal, nous allons passer à des nourritures non, un peu moins intellectuelles, Chloé ?
Eh oui. Alors, on a dans cette rubrique restauration, si on peut l'appeler comme
oui,
ça.
Oui, restauration, gastronomie, bonne bouffe. Hein, voilà. Voilà, on est dans le Sud-Ouest.
On m'a confié la mission d'aller interviewer un restaurateur du coin. Et donc, cette semaine, je me suis intéressée au restaurant du Mai, rue du Mai.
Moi, je suis Madame Carl, la gérante du restaurant, alias Chris, parce que c'est mon prénom, et alias La Vieille, pour tout le monde. Voilà, aussi, d'accord. Les clients et les salariés. Donc, n'est-ce pas, vous m'appelez La Vieille, tous.
Donc, du restaurant Le Mai, rue du Mai.
Ça fait depuis 1986. Mais j'ai des salariés qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, voilà, 10 ans. C'est un endroit où on reste, quoi. D'accord.
Comment vous présenteriez votre restaurant ?
Un restaurant familial.
C'est bon ?
Humain, échelle humaine, voilà. Franchement, c'est un endroit où, où on est décontracté en salle et où on n'est pas tricheur en cuisine. Parce que c'est de la vraie cuisine.
Qu'est-ce qu'on peut y trouver ?
Comme plat ?
Oui.
Des spécialités régionales, comme des spécialités traditionnelles, hein, et des spécialités ouvertes sur le monde aussi. Hein. Ça peut être un confit de canard maison, hein, ce qu'on fait nous, comme une entrée marocaine. Voilà.
Est-ce que vous avez une spécialité ?
Alors la spécialité, c'est justement, on fait notre confit maison, confit de canard maison. On a le poisson mariné l'été. Notre poisson mariné qui marche très très bien et les œufs cocottes. Alors ça c'est une entrée mais c'est vraiment un peu l'emblème du resto. Hein. C'est des œufs cocottes dans un petit ramequin, c'est des cuissons au bain-marie avec soit du roquefort, soit des épices, soit enfin un peu de chaque. Les gens adorent.
Et vous y faites quoi vous, du coup, vous êtes gérante
Moi je l'ai créé.
D'accord.
Cet endroit, donc j'y suis, ça représente 36 ans de ma vie. Et donc je suis maintenant gérante et je travaille, je fais les courses bien sûr, les achats, les commandes, et j'y suis le midi. Mais là en ce moment je prends un peu de recul, j'y suis plus tous les midis parce que j'ai un grand âge quand même, j'ai 71 ans. Et donc, merci, c'est gentil, mais bon. Pourtant, oui.
D'accord.
Mais le travail conserve, comme quoi.
Eh bien, je vois ça. Dans quelle fourchette de prix on se trouve ?
Alors, ça doit être le restaurant le moins cher de tous.
Ah bon ?
Parce que à midi, pour l'instant, hein, parce que je vais être obligée d'augmenter les prix à cause de la situation actuelle, jusqu'au début du mois prochain, vous pouvez manger entrée, plat, dessert à midi pour 12 euros. Là, je vous défie de trouver mieux, moins cher. Parce que c'est cuisinier et tout. En sachant qu'il y a une entrée, un plat et un dessert qui changent tous les jours. Pas lâché avec le reste, hein, bien sûr. Hein, mais il y a toujours une entrée du jour, un plat du jour et un dessert du jour, en fonction du marché.
D'accord. Est-ce que vous diriez aux auditeurs en mot de la fin, où est-ce qu'on peut vous retrouver ?
S'ils veulent trouver un endroit hyper sympa, un petit coin de tranquille au cœur de Toulouse, parce que vous avez vu où on est situé. On est à deux pas de la rue Saint-Rome et à deux pas de la rue Saint-Ursule. C'est un endroit où on est protégé du bruit, on se croirait à la campagne.
D'accord.
Et où vous mangez bien, et même très bien, et sans arnaque, quoi.
Voilà, bah écoutez, elle vous a tout dit, près de chez vous, près de chez nous, bien manger et sans arnaque, c'est quand même important par les temps qui courent. Donc, c'est le restaurant Le Mai. Merci Chloé. Bien écoutez, moi je vous propose une pause musicale, cette fois-ci c'est la mienne. On va voir, on peut changer de style, hein, on fait le grand écart entre Big Flo et Oli et les autres. Là, moi je vous propose Mozart. dans son opéra Così fan tutte. Alors pourquoi Mozart? Eh bien parce que le 16 juillet, je m'y prends assez tôt pour vous l'annoncer, eh bien à Sorèze, vous avez un grand festival. Sorèze est une ville magnifique dans le Tarn, avec beaucoup d'histoire. La compagnie Opéra Éclaté, qui est une compagnie nationale d'opéra, va jouer le Così fan tutte avec une mise en scène d'Éric Pérez. Et pour vous y préparer, je vous propose d'écouter Cecilia Bartoli. Et à la baguette, nous avons Daniel Barenboim. Voilà, Cecilia Bartoli, Daniel Barenboim, Così fan tutte, Mozart, vous l'avez bien sûr reconnu pour les mélomanes et pour les autres, vous aurez certainement beaucoup de plaisir à aller l'écouter le 16 juillet à Sorèze dans le cadre de l'Abbaye École. Ce sera absolument magnifique. Nous aurons le beau temps parce qu'il n'y aura que du beau temps au mois de juillet. Nous allons parler maintenant d'autre chose. Tout à fait autre sujet. Là, c'est j'ai beaucoup regardé. On va parler de cinéma et de séries. J'ai une série que j'ai beaucoup regardée, que je regarde encore parce que je n'ai pas vu la totalité de la saison qui vient de sortir. Ça s'appelle En Thérapie. C'est le choix de Chloé et c'est sur Arte.
Alors, en effet, aujourd'hui, je vais vous parler de la série En Thérapie et plus particulièrement de sa deuxième saison, sortie il y a un peu plus d'un mois sur la chaîne YouTube d'Arte et son site internet. Alors, comme l'a dit Jacques, vous en avez sûrement entendu parler, peut-être même que vous la suivez activement. Mais alors, En Thérapie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une version française adaptée de la série originale israélienne appelée Betty Pool, si je le prononce bien, qui a d'ailleurs été adaptée déjà dans 17 pays différents. Alors, cette saison 2 est réalisée par Eric Toledano et Olivier Nakache.
Qui sont deux grands scénaristes français, certainement les deux plus grands aujourd'hui et qui font un boulot absolument admirable.
Et qui avaient déjà réalisé la première saison. Et pour ce retour, Emmanuel Berco, Agnès Jaoui, Arnaud Desplechin et Emmanuel Finkiel sont venus se joindre à eux afin d'ajouter leur patte scénaristique. L'intrigue est simple, le thérapeute que l'on connaît bien maintenant, Philippe Dayan, interprété par Frédéric Pierrot, reçoit plusieurs patients de tout âge et de tout milieu confondu dans son cabinet. Nous suivons donc ces patients à travers leur séance de psychanalyse et leur histoire personnelle. Et alors pour cette deuxième saison, le contexte de fond est la crise sanitaire que nous traversons depuis 2 ans maintenant. Et plus précisément, l'histoire se déroule au lendemain du tout premier confinement que nous avons vécu. Alors Philippe Dayan aura affaire à des patients hypochondriaques qui font face au deuil, des isolés ou encore des patients malades. Et lui-même est d'ailleurs en pleine reconstruction de sa vie. Ce dernier est désormais divorcé, habite en banlieue, retrouve son amour de jeunesse, fait face à des ennuis judiciaires et tente lui aussi de se réconcilier avec son passé. Le casting est aussi très diversifié et fait honneur à plusieurs visages du cinéma français. Donc Agnès Jaoui n'y est pas que réalisatrice mais également actrice. Vous découvrirez par vous-même quel rôle elle interprète. Et nous y retrouvons également Charlotte Gainsbourg, la fille de notre...
Serge Gainsbourg, national, oui.
Jacques Weber, Aye Aydara, si je le prononce bien aussi, et Suzanne Lindon, une jeune actrice émergente. Mais comme je l'ai dit précédemment, cette saison n'est pas la première, et pour mieux la comprendre, rien ne vaut un visionnage de la précédente. Alors dans la première saison, le contexte était bien différent. Nous étions en 2015, au lendemain des attentats du Bataclan à Paris, et certains des patients de Philippe Dayan étaient directement impliqués dans ces drames en tant que soignants ou bien intervenants sur les lieux. D'autres étaient simplement secoués dans leur vie et leurs problèmes quotidiens comme la vie de couple ou la vie familiale. Et Philippe Dayan était aussi très bouleversé par les événements et se trouvait alors dans un tournant de sa vie car sa propre vie conjugale et familiale se délitait et tout cela était accentué par un lien particulier qu'il a noué avec une de ses patientes. Alors pour ceux qui seraient un peu frileux du concept, laissez-moi vous en dire plus. Vendu comme ça, on pourrait se dire que le principe de simplement assister à des séances de psychanalyse, d'écouter des traumatismes, des problèmes n'est pas très intéressant, platonique, voire un peu déprimant. Alors certes, c'est peut-être pas une série qu'on pourrait qualifier de feel-good, hein, je pense que vous êtes d'accord, mais en réalité c'est tourné d'une certaine manière qui fait qu'on rentre réellement dans ce cabinet de psychanalyse, qu'on a presque l'impression d'être assis avec eux. On se projette dans le vécu des patients, dans les échanges avec le thérapeute, et je pense que certains peuvent même se reconnaître dans certains patients ou dans certaines situations. Je pense que c'est peut-être aussi ça qui plaît, c'est de se rassurer en se reconnaissant dans les insécurités des autres. Et d'ailleurs, la série a été réalisée à l'aide d'un consultant, appelé Serge Effez, qui est lui-même psychiatre, et c'est sans doute ce qui rend la série criante de vérité. Alors ça demande peut-être un certain recul pour des personnes qui ont vécu des traumatismes similaires à ceux des patients fictifs, mais en tout cas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne s'ennuie pas du tout en regardant en thérapie. La preuve est que c'est un succès, tout comme la première saison, et l'équipe d'acteurs et de réalisateurs fait aujourd'hui le tour des plateaux télé et des radios. Donc a priori, ça plaît. Et si je devais finir par donner mon avis personnel, je dirais que je ne suis pas une grande cinéaste et encore moins une accro aux séries, mais celle-ci m'a particulièrement touchée, intéressée, même si j'ai eu une petite préférence pour la saison 1. Et si vous êtes aussi de nature à aimer discuter avec les gens, à vous intéresser aux histoires des uns et des autres, je pense que vous ne serez pas déçus. Donc, En Thérapie est disponible sur le site officiel d'Arte dans son intégralité. Il y a un épisode tous les soirs sur la chaîne YouTube, un tous les jeudis sur la chaîne télé d'Arte, et vous pourrez retrouver la saison 1 dans son intégralité également sur le site et la chaîne YouTube. Donc, foncez, testez, approuvez.
Alors c'est vrai, merci de ce beau papier Chloé, c'est vrai que c'est très addictif, ce sont des petits films qui durent 20 minutes à peu près par patient. Ouais. Hein. On a l'impression de faire sa propre thérapie ou ça donne envie de faire celle des autres aussi.
C'est ça.
Hein, j'en ressors tout à fait apaisé, en pleine réflexion. Alors ça peut, comme vous l'avez dit, au départ ça peut paraître un peu rebutant et puis on se laisse prendre au jeu. Alors il faut savoir que chaque fois, il y a 3, 4, 5 patients, je ne sais plus, et qu'on alterne, on voit les 4 ou 5 qui viennent en thérapie, comme le nom l'indique, qui viennent passer sur le divan de Philippe Dayan, et puis après on poursuit avec eux l'examen un peu de leur situation, on les suit et on finit par s'y attacher. Comme je disais, c'est tout à fait addictif. Alors c'est très calme, on ne se tue pas, on ne s'étrangle pas, il n'y a pas de poursuite. C'est vraiment galant, mais je trouve ça remarquable. Et puis les scénaristes ont fait un boulot merveilleux. C'est admirablement filmé. Les acteurs aussi sont très très bons. Vraiment à recommander. Ça nous change un peu de beaucoup de stupidité que l'on voit dans certains cinémas et dans certains films. C'est du haut de gamme, passionnant et allez-y, sans retenue. Eh bien, nous sommes arrivés au bout de notre aventure culturelle toulousaine. Nous vous laissons donc là, nous nous quittons. Merci à Chloé, notre actrice. Merci à Pascal, merci à Jean-François qui n'était pas là ce soir mais qui est censé nous parler du livre Occitan. C'est notre nouveau libraire de l'Hostal d'Occitanie. Nous l'aurons la prochaine fois en émission. C'était ma préférence, une émission de Jacques Lavergne avec Chloé Morand-Bridé.
C'est ça.
Et à la réalisation, nous avions Tiffaine Lemaine et Marco Pazzoli. Un autre Corse de service. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Et pour nous-mêmes, nous nous retrouverons dans 15 jours, mercredi en 15, à 18h pour une nouvelle édition de notre magazine culturel. Belle soirée à toutes et à
tous. Bonne soirée.